Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, méditons ensemble sur le verset 261 de la sainte sourate Al-Baqarah. Notre frère Bourouman vous en donne la lecture chantée, vous en aurez ensuite la traduction. Ce verset prône la largesse qui est bien récompensée par Dieu.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم صدق الله العلي العظيم.
Il est de ceux qui font largesse de leurs biens dans le sentier de Dieu, comme d'un grain d'où naissent sept épis à 100 grains l'épi, car Dieu multiplie en faveur de qui il veut. Dieu est immense, il sait.
Thank you. Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Très chers amis auditeurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver encore une fois sur ces ondes de l'amitié et de la fraternité en ce lundi 23 janvier 2023. J'ai le grand plaisir de vous présenter dans quelques instants le journal d'information, suivi d'un commentaire politique. Nous vous proposerons ensuite la seconde partie de cette émission. Merci de votre écoute. Restez avec nous. L'appareil diplomatique iranien a réitéré l'échec de la politique sournoise des pays occidentaux et d'Israël envers les récentes émeutes en Iran. Somalie, les forces spéciales ont repris le contrôle de l'hôtel de ville de Mogadiscio et les cotes de popularité d'Emmanuel Macron et Elisabeth Borne à la baisse. C'était les principaux titres. En voici le journal. L'appareil diplomatique iranien a réitéré l'échec de la politique sournoise des pays occidentaux et d'Israël envers les récentes émeutes en Iran. Les récentes crises politiques et économiques en Occident prouvent que ceux qui soufflent sur le feu auront des étincelles dans les yeux. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a fustigé les gouvernements et les médias occidentaux pour leur comportement sournois envers les récentes émeutes soutenues par l'étranger. La guerre hybride de l'Occident est vouée à l'échec, tout comme par le passé, a-t-il souligné. Manifestations, protestations, heurts et violences à Paris, Londres et Tel Aviv. Et leurs médias parlent de manifestations en Iran qui se sont estompées il y a plus d'un mois malgré toutes les tentatives occidentales pour déclencher les manifestations, les alimenter et les maintenir, a déclaré dimanche 22 janvier Nasser Kanani dans une série de tweets. La guerre cognitive et hybride en cours de l'Occident contre l'Iran est la continuation de sa campagne militaire, économique, politique et psychologique. Elle est vouée à l'échec comme par le passé, a-t-il dit. Des émeutes soutenues par l'Occident ont éclaté en Iran à la mi-septembre après que Mahsa Amini, une jeune femme de 22 ans, s'est effondrée dans un poste de police et décédée dans un hôpital 3 jours plus tard. Une enquête a par la suite attribué son décès à des antécédents médicaux plutôt qu'à des coups présumés de la part de la police. Les violentes émeutes ont permis des actes de terrorisme à travers le pays et coûté la vie à des dizaines de personnes et des forces de sécurité. Cependant, à travers leur campagne de propagande, les gouvernements occidentaux n'ont épargné aucun effort pour déformer la réalité des faits. Par exemple, ils ont prétendu que la police iranienne avait tué 516 manifestants, dont 70 enfants, en près de 4 mois d'émeute, un nombre qui a été catégoriquement rejeté par toutes les autorités iraniennes. Pendant ce temps, en France et en Grande-Bretagne, les manifestants crient leur indignation quant aux politiques et réformes inefficaces de leurs gouvernements respectifs. Le chef de l'organisation spatiale iranienne a annoncé le lancement de la phase opérationnelle du premier projet de système satellitaire du pays baptisé Marty Rassem Soleimani, en rendant hommage au défunt commandant antiterroriste iranien. Hassan Salarié a fait cette annonce ce dimanche 22 janvier sur le site officiel de l'organisation alors qu'il expliquait le dernier état de la mise en œuvre du projet du général Soleimani qui fait partie du programme spatial iranien pour une période de 10 ans. Sur la base du programme spatial de 10 ans et afin de prêter des services aux personnes, aux institutions gouvernementales, aux organisations et aux entreprises du secteur privé, l'organisation spatiale iranienne a été chargée de placer un système de satellites de télécommunication en orbite, a déclaré Salarié. Considéré comme le premier projet de système satellitaire de l'Iran, la mise en œuvre du projet de Martyr Soleimani revêt d'une grande importance en raison des acquis obtenus dans la production de séries de satellites, a-t-il ajouté. Il a souligné que l'organisation spatiale iranienne avait préparé le plan opérationnel du projet et codifié le programme exécutif d'un système de télécommunication multipoint à bande étroite avec un service limité il y a longtemps, et ce, même avant la finalisation du programme spatial de 10 ans. En moins d'un mois, depuis l'approbation du programme spatial de 10 ans, dont l'une des clauses les plus importantes est la mise en œuvre du projet de Martyr Soleimani, la phase de mise en œuvre du projet a été officiellement lancée, a déclaré M. Salarié. Saluant les mesures prises par l'organisation pour construire de petits satellites, Salarié a déclaré « Si cette étape réussit, la voie pour compléter et développer des systèmes satellitaires et prêter plus de services sera ouverte dans les prochaines étapes. » L'Iran a lancé son premier satellite baptisé Omid en 2009. Le deuxième satellite iranien baptisé Rasad a été mis en orbite en 2011. En 2012, la République islamique d'Iran a réussi à mettre en orbite son troisième satellite de fabrication nationale Navid. L'Iran a mis en orbite avec succès son premier satellite militaire en avril 2020 et le second en mars 2022. Le vice-ministre iranien des Affaires étrangères pour les affaires politiques, Ali Bareri, s'est entretenu à Ouagadougou avec le premier ministre burkinabé, Apollinaire de Tambela, des relations et programmes de développement des deux pays. Faisant allusion à l'antécédent du colonialisme occidental dans le continent africain, le haut diplomate iranien a fait remarquer que le jour de l'indépendance dans les pays africains, c'est le jour où ces pays sont parvenus à se libérer du joug des gouvernements européens qui violent les droits de l'homme. Le premier ministre burkinabé, quant à lui, a plaidé pour le renforcement des relations avec l'Iran, dont il a loué la civilisation. Les autres nations et civilisations sont redevables chacune, en quelque sorte, à cette grande civilisation, et notre pays accueille à bras ouverts toute coopération avec l'Iran. Le vice-ministre iranien des Affaires étrangères a également rencontré le chef de la diplomatie burkinabé. Les deux hommes ont discuté des questions d'intérêt bilatéral, dont la formation d'une commission mixte et la tenue de sa première réunion à Ouagadougou. Le vice-ministre iranien s'est aussi entretenu avec le ministre burkinabé du développement industriel et du commerce, des voies de développement de la coopération économique, de la hausse des échanges commerciaux et de la tenue des expositions des produits iraniens. Le ministre burkinabé a chaleureusement accueilli la présence des sociétés iraniennes au Burkina Faso. Les forces de sécurité somaliennes ont repris le contrôle total du complexe de l'hôtel de ville de Mogadiscio qui avait été attaqué dimanche par des terroristes du groupe Al-Shabaab, a rapporté le site Somali Guardian. Un détachement d'Al-Shabaab a pris d'assaut le territoire de l'hôtel de ville de la capitale, tuant 5 personnes, a informé le site. Une unité des forces spéciales est arrivée au complexe et a attaqué les terroristes. Après près de 5 heures d'intenses combats contre les terroristes, les forces spéciales ont pris le contrôle total de l'hôtel de ville. La chaîne de télévision Al-Arabiya rapporte que 3 terroristes Al-Shabaab ont été éliminés. Au moment de l'attaque, le maire de Mogadiscio n'était pas dans le complexe administratif. La réforme des retraites coûte cher en popularité dans toutes les catégories au président français Emmanuel Macron. Le gouvernement est en train de perdre la bataille de l'opinion, constate Frédéric Dabi, directeur général de l'IFOP, comme le confirme le baromètre mensuel de l'Institut pour janvier, dont la première vague avait été effectuée après l'annonce de la réforme par la première ministre Elisabeth Borne et la seconde concomitamment à la journée de mobilisation jeudi. Avec 34% de Français satisfaits de son action, moins 2 en un mois, pour 65% de mécontents, plus 3, Emmanuel Macron chute en effet à son plus bas niveau de popularité depuis février 2020, c'est-à-dire juste avant le premier confinement. L'effet de la réforme des retraites, le président de la République et la première ministre reculent dans un sondage. Les cotes de popularité d'Emmanuel Macron et d'Elisabeth Borne s'effritent respectivement de 2 et 4 points en janvier sur fond de réforme des retraites, d'après une enquête IFOP pour le journal du dimanche. 34% des personnes interrogées se disent satisfaites de l'action du chef de l'État. Selon ce baromètre mensuel, soit un recul de 7 points au total depuis sa réélection en avril 2022. Il s'agit aussi du niveau le plus bas pour Emmanuel Macron depuis février 2020, à la veille de la crise du Covid-19, et là encore dans un contexte tendu de réforme des retraites. Elisabeth Borne voit, elle, sa cote reculer à 32% d'opinion favorable, son plus mauvais résultat depuis son accession à Matignon, le siège des services du gouvernement. La Première ministre a présenté le 10 janvier le projet du gouvernement de réforme des retraites qu'il doit faire adopter lundi en Conseil des ministres avant son arrivée au Parlement à la fin du mois. Le texte prévoit notamment un report de l'âge légal de départ de 62 à 64 ans. La présidente du Conseil des ministres d'Italie, Giorgia Meloni, est arrivée dimanche 22 janvier en Algérie pour entreprendre pendant 2 jours des discussions avec de hauts responsables algériens autour de divers dossiers de coopération bilatérale. À l'aéroport international d'Alger, Mme Meloni a été accueillie par le Premier ministre algérien Ayman Ben Abdelrahman et des membres du gouvernement. Alger et Rome entretiennent ces derniers temps de solides relations dans divers domaines, notamment celui de l'énergie. Cette nouvelle dynamique dans les relations algéro-italiennes intervient après la visite d'État du président algérien Abdelmadjid Tebboune en Italie en mai 2022, précédée par la visite d'État du président italien Sergio Mattarella en Algérie en novembre 2021. Ces visites ont été marquées par une convergence totale de vues autour des questions d'intérêt commun, ainsi qu'une détermination à développer la coopération bilatérale stratégique entre les deux pays. Voilà, ainsi s'achève le journal. Restez à l'écoute du commentaire politique. Ukraine, la politique euro-américaine mène à une catastrophe mondiale. La poursuite des livraisons d'armes à l'Ukraine par ses alliés occidentaux conduira à des représailles avec des armes plus puissantes, a écrit dimanche 22 janvier sur sa chaîne Telegram Vyacheslav Volodin, président de la Chambre basse de la Russie, la Douma. Volodin a écrit « Avec leur décision, Washington et Bruxelles mènent le monde à une guerre terrible. Compte tenu de la supériorité technologique des armes russes, les politiciens étrangers qui prennent de telles décisions doivent comprendre que cela pourrait se terminer par une tragédie mondiale qui détruira leur pays. Selon le président de la Douma d'État, par leurs décisions, Washington et Bruxelles conduisent le monde à une guerre terrible. À des opérations militaires complètement différentes de celles d'aujourd'hui, où les frappes sont menées exclusivement sur les infrastructures militaires et critiques utilisées par le régime de Kiev. Si Washington et les pays de l'OTAN fournissent des armes qui seront utilisées pour frapper des villes et tenter de s'emparer de nos territoires, alors qu'ils menacent, cela conduira à des mesures de représailles utilisant des armes plus puissantes, a déclaré le président de la Douma. Les arguments selon lesquels les puissances nucléaires n'ont jamais utilisé d'armes de destruction massive dans des conflits locaux sont insoutenables. Vyacheslav Volodin en est convaincu. Parce que ces États n'ont pas été confrontés à une situation où il y avait une menace pour la sécurité de leurs citoyens et l'intégrité territoriale du pays, a-t-il conclu. Le chef de la Douma russe a demandé aux membres du Congrès américain, du Parlement allemand, de l'Assemblée nationale française et des autres parlements européens de prendre conscience de leurs responsabilités envers l'humanité. Dans le nouveau cycle d'aide militaire à l'Ukraine, les pays occidentaux ont mis la livraison d'armes avancées, y compris des chars d'assaut, à l'ordre du jour. Dans le nouveau cycle d'aide militaire à l'Ukraine, les pays occidentaux prévoient de fournir à l'Ukraine des armes avancées, y compris des chars d'assaut, une mesure qui a créé une divergence d'opinion entre Américains et Européens et également entraîné une vive réaction de la Russie. Dans la foulée, à partir d'un article publié sur le site web 1945, Daniel Davis, expert militaire et colonel à la retraite de l'armée américaine, a souligné que la fourniture d'armes occidentales à l'Ukraine ne pourrait basculer l'équilibre des forces sur le champ de bataille et par conséquent ne peut pas faire gagner l'Ukraine contre la Russie. Il a souligné qu'équiper l'Ukraine des chars américains Abrams et de chars allemands Léopard ne pourrait pas basculer l'équilibre des forces en faveur de Kiev sur le champ de bataille. Les autorités britanniques ont annoncé qu'elles livreraient des chars Challenger 2 à Kiev, mais Washington a refusé pour l'instant de livrer des chars Abrams. En riposte à la tenue de la récente réunion de Rammstein, regroupant les ministres de la Défense des pays soutenant l'Ukraine, Dmitri Medvedev évoque l'éventuelle création d'une alliance militaire de pays ennuyés par les États-Unis. Selon le vice-président du Conseil de sécurité russe, le monde reviendra à un endroit stable au cas où les États-Unis abandonneront l'Europe. L'Occident sera prêt à faire des tentatives sans fin pour détruire la Russie. Une nouvelle alliance militaire pourrait émerger à l'échelle mondiale, a écrit dimanche 22 janvier, le vice-président du Conseil de sécurité russe, Dmitri Medvedev, sur Telegram. La réunion de Rammstein et les livraisons d'armes lourdes à Kiev ne laissent aucun doute sur le fait que nos ennemis essayeront de nous détruire sans fin. Et ils ont suffisamment d'armes pour cela. Ils pourraient également commencer à en produire de nouvelles, si nécessaire, a-t-il indiqué avant d'arriver à deux conclusions. Premièrement, ce serait très difficile. Deuxièmement, en cas de conflit prolongé, une nouvelle alliance militaire peut apparaître à un certain moment, comprenant les pays qui sont irrités contre les États-Unis et leurs alliés, a-t-il ajouté, faisant référence à l'histoire des longues guerres.
Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre pour une nouvelle édition de débat. Une fois encore, les pays européens, le Parlement européen ont pris une décision anti-iranienne et se sont tirés une balle dans le pied. En effet, il y a eu une résolution du Parlement européen contre les gardiens de la révolution islamique, le corps des gardiens de la révolution islamique, le désignant ainsi dans la liste noire des terroristes du Parlement européen. Une action qui va bien sûr leur faire regretter les Européens, surtout certains pays européens qui ont soutenu les émeutiers en Iran depuis le début des troubles, il y a presque 3-4 mois de cela. Mais ce n'est pas la première fois. Durant toutes ces dernières années, les pays européens, notamment certains d'entre eux, n'ont cessé de soutenir la détérioration de la sécurité et de la situation en Iran et ont plaidé pour un changement de régime en ce qui concerne leurs décisions et leurs objectifs. Afin de parler et afin d'évoquer ce sujet, nous avons invité deux experts, deux analystes des questions internationales. Le premier, il s'agit de Maître André Chamy, qui est juriste international et qui est avec nous en direct depuis Alsace. Également Luc Michel, géopoliticien qui est avec nous depuis Bruxelles. Je vous dis bonjour messieurs et merci d'être avec nous pour ce débat, pour cette émission où nous allons évoquer la question iranienne mais surtout les prises de position occidentales vis-à-vis de l'Iran. Maître Chamy, si vous voulez bien, je commence avec vous. Bonjour et merci d'être avec nous pour ce débat. Dans un premier temps, maître, comment interprétez-vous la prise de position et cette démarche européenne contre le corps des gardiens de la révolution islamique ?
Bonjour à vous, bonjour à, ainsi qu'à M. Michel. Pour démarrer mon propos, je vous dirais qu'on est aujourd'hui dans la posture, c'est devenu une sorte d'habitude chez certains politiciens en Europe, c'est d'avoir la posture d'eurodolomiste, c'est-à-dire être le prétendant à la défense des droits de l'homme, mais en réalité sans savoir ce que cela, je dirais, signifie et ce que cela implique. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, j'ai envie de vous dire, le Parlement européen n'est pas un organe décisionnaire. Ils peuvent soumettre des motions, mais ces motions-là n'auront pas d'impact sur le plan pratique, sur le plan politique. C'est une décision que j'appellerais un vœu pieux, mais la décision appartient aux, ce qu'on appelle aux instances exécutives, c'est-à-dire soit aux États, soit à la Commission européenne, ce qui n'est pas encore le cas. Mais il ne faut pas l'exclure. Tout est possible, mais derrière tout ça, il y a une volonté indiscutable de faire monter en quelque sorte les tensions. Parce que aujourd'hui, les premiers à avoir couvert, ce n'est pas un hasard, à avoir couvert cette, oui, cette information-là, c'est I-24, c'est la chaîne israélienne.
Oui.
Et évidemment, vous avez les Américains qui poussent derrière pour leur montrer que vous avez la possibilité de tout faire. Et il y a également les moujahidis du peuple ou les menteurs du peuple qui sont aussi derrière ce groupe de pression qui aboutit à un moment donné à obtenir ce type de vote parce qu'il faut le reconnaître qu'ils pratiquent le lobbying et ce lobbying leur permet d'accéder avec leur lobby vers, au sein du Parlement européen et au prétexte de défendre les droits de l'homme en Iran, bien entendu, on s'en prend à qui ? Même pas aux forces de sécurité, on s'en prend aux gardiens de la Révolution. Les gardiens de la Révolution, en précisant particulièrement le régiment Al-Quds, qui était dirigé jusqu'à son martyr par le général Soleimani. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, c'est ce corps-là qui a défendu les grandes valeurs, au contraire, de l'humanité dans tout le Moyen-Orient, que ce soit en Syrie, que ce soit en Irak, que ce soit au Yémen, et bien entendu en Palestine. Évidemment, toutes ces questions-là qui se trouvent à l'opposé même de la politique américaine et de la politique israélienne. Et évidemment, ceux qui se sont opposés à la politique américaine ou sioniste doivent en payer le prix. Et on commence aujourd'hui à en voir en quelque sorte la manifestation à travers ces décisions-là. Mais cette volonté a toujours existé. Rappelez aussi, par exemple, les boycotts ou en tout cas les sanctions qui ont été prises à l'encontre de la compagnie Mahan. Mm-hmm. C'était parce que c'était la compagnie qui appartiendrait aux gardiens de la Révolution ou qui transporterait les gardiens de la Révolution. C'est-à-dire le fait de viser les gardiens de la Révolution a toujours existé. Et évidemment, à ce moment-là, ils commencent par viser des personnalités et maintenant, ils mettent le pied dans le plat en disant « Eh ben, on vise tous les gardiens de la Révolution ». Mais aujourd'hui, si cette motion ou ce vote insignifiant devait se transformer en décision exécutive, là, ça deviendrait plus croustillant, si j'ose dire, parce que l'Iran se trouverait totalement détaché de toute possibilité de lien avec l'Europe, parce que là, c'est une question de souveraineté. C'est l'un des corps de l'armée, c'est comme si vous disiez, c'est le 35e régiment de l'armée française, oui, qui est sanctionné. Et à partir de là, évidemment, la France pourrait prendre une décision contre ceux qui prendraient une telle motion. Et là, l'Iran aurait à ce moment-là toutes les possibilités de prendre des décisions contre des forces armées, contre des chefs militaires, etc. etc. C'est-à-dire on va monter crescendo avec des conséquences qui peuvent être très néfastes, y compris sur le plan relationnel, c'est-à-dire il y aura même des possibilités de rupture relationnelle entre certains États parce que cette situation ne peut pas être acceptée par un État souverain contre lequel on prend ce type de décisions qui sont directement liées à sa politique intérieure et à sa souveraineté et à son indépendance.
Merci pour vos explications, maître. Restez en ligne. Luc Michel, vous avez entendu les explications de maître Chami en ce qui concerne ces prises de position, cette décision qui n'est pas nouvelle. Vous, quel regard portez-vous sur cette décision du Parlement européen, Luc Michel ?
Tout d'abord, bonjour et je partage tout à fait ces remarques. Il y a trois choses à dire pour moi sur cette décision. Tout d'abord, c'est que l'Union dite européenne, elle n'est qu'un appendice, le bras politique de l'OTAN. Elle est entièrement sous suggestion américaine. C'est une colonie yankee. Déjà à l'époque des accords de Genève en 2015, vous vous souvenez peut-être que Mme Mogherini était venue en visite à Téhéran. C'était la représentante diplomatique de l'Union européenne. Elle espérait les marchés iraniens comme une bulle d'oxygène économique pour l'Union européenne. Mais sur la pression américaine, évidemment, les Européens ont dû faire marche arrière. Opel a cédé le marché iranien et Total a abandonné le marché iranien du pétrole. Il a cédé ses champs pétroliers à évidemment la Chine. La deuxième chose, c'est que le Parlement européen, qui est l'un des parlements les plus corrompus au monde, y compris la corruption européenne, puisqu'on se rappellera par exemple que Mme Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, elle a dû abandonner la politique allemande dans un scandale de rétrocommission et qu'aujourd'hui, le Parlement européen est saisi par une affaire de corruption avec le Qatar et le Maroc. Qu'est-ce qu'on retient de tout cela ? C'est que la politique de Bruxelles, elle est cadenassée par les ennemis de l'Iran. Il y a tout d'abord les moudjahidines du peuple, il y a les monarchistes partisans de l'ancien Shah d'Iran, mais surtout il y a les réseaux de George Soros. Ils sont tout puissants au Parlement européen et la Commission européenne et ils font campagne, évidemment, contre l'Iran. Particulièrement samedi dernier, ils défilaient à Paris et la revendiquaient.
Monsieur Michel, est-ce que vous nous entendez ? Je pense qu'on a été coupé. Alors, le temps que mes collègues rétablissent la connexion avec Luc Michel, on va continuer avec Maître Chamy. Vous avez entre autres entendu les explications et l'analyse de Luc Michel, Maître. Mais à votre avis, quel est l'objectif ultime du Parlement européen à travers ce genre de décision ? On a eu l'accord nucléaire qui a été en fait terminé sans fin concrète après les entraves et les bâtons mis dans les roues de cet accord, de ces négociations par les États-Unis, mais aussi par la partie européenne. Nous avons eu à maintes reprises des ingérences des pays européens dans les affaires iraniennes, surtout durant ces derniers mois avec les émeutes. Et quel est alors l'objectif ultime à travers toutes ces déstabilisations et ces positions ?
On ne peut pas dire qu'il y ait un objectif ultime. On peut dire que ça fait partie des remous qui est provoqué pour parler de ce qu'on appelle du régime iranien. Mais en réalité, ça n'a, encore une fois, ça n'a aucun impact sur le plan purement politique. C'est une décision que j'appellerais de principe, mais en réalité, ce n'est même pas une décision parce que c'est un vote autour d'une idée qu'il faudrait classer les gardiens de la révolution sur la liste des organisations terroristes. Mais ce n'est pas le Parlement qui peut prendre une telle décision. Ça, c'est important. Mais comme l'a souligné M. Michel, il y a une difficulté majeure, je dirais. Quel crédit accorder, sinon quelle crédibilité accorder à cette institution qui est corrompue, c'est-à-dire qui est aujourd'hui, on le sait, éminée par la corruption et par le lobbying pharmaceutique qui est maintenant clairement établi, le lobbying au profit des États-Unis qui est clairement établi, le lobbying au profit d'un certain pays que l'on peut qualifier fantoche, parce que quand on parle de la démocratie par rapport au Maroc, quand on parle de la démocratie par rapport au Qatar, on a envie plus de rigoler, parce qu'il y a des institutions en Iran. On peut aimer ou ne pas aimer, mais il y a des institutions démocratiques qui sont élues directement par le peuple et le peuple participe à la désignation de ses députés, à ses majorités, à ses oppositions, etc. Au Qatar, il n'y a rien. Et c'est la même chose au Maroc. Et on ose aujourd'hui donner des leçons de démocratie de la part de ceux qui sont corrompus par ces deux régimes. C'est-à-dire, nous sommes face à une ineptie, à une stupidité, pour ne pas dire une position unique, sinon unique dans le monde. Et ça, c'est, je dirais, l'observation que j'appellerais dominante. Mais derrière ça, quelle politique entamer, quelle politique envisager? C'est-à-dire, vous prenez une décision qui classerait les gardiens de la Révolution sur la liste des organisations terroristes. Mais qu'est-ce que ça va donner? Vous allez les empêcher de voyager en Europe? Mais qu'est-ce qu'on s'en moque? Est-ce que les gardiens de la Révolution sont aujourd'hui à Paris ou à Londres ou à Bruxelles ou à Luxembourg ou à Berlin? Les gardiens de la Révolution ont une mission qui est celle de la préservation de la nation iranienne. C'est-à-dire, ce n'est pas pour venir se balader en Europe, ce n'est pas pour avoir des placements en Europe et ce n'est pas pour avoir je ne sais quel investissement dans les pays européens. C'est-à-dire, encore une fois, c'est une stupidité, mais il faut arrêter ces postures qui n'ont pas de sens et qui n'ont pas d'impact. Ce sont des postures tout simplement de, je dirais, belliqueuses, c'est-à-dire on cherche la bagarre. Quand on ne peut pas assumer cette bagarre-là, à ce moment-là, il vaut mieux se taire. Ça me rappellerait un petit peu ce qu'a déclaré le ministre de l'économie français au début de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Il a dit qu'il allait mettre l'économie russe à genoux. Or, aujourd'hui, c'est l'économie européenne qui est à genoux. C'est-à-dire, de temps à autre, il faut comprendre ce qu'on est en train de dire et assumer les conséquences de ces actes et de ces propos. On ne peut pas dire que l'on va sanctionner les gardiens de la Révolution sans imaginer des contre-mesures. L'Iran est en mesure de prendre des contre-mesures. Je ne me prononcerai même pas sur ces mesures-là. Je laisserai ce soin aux autorités et au pouvoir iranien. Et par conséquent, ces gens-là qui n'ont aucune réflexion géopolitique, qui comprennent les relations, qui ne comprennent pas suffisamment, pour ne pas dire pas du tout, les relations internationales, c'est la raison pour laquelle, par exemple, ils n'ont pas exigé de leur propre gouvernement d'appliquer les accords sur le nucléaire, alors qu'ils estiment que leurs gouvernements sont engagés. Les États-Unis se sont retirés. Pourquoi? Eux, ils n'ont pas pris la décision d'exiger de leur gouvernement de respecter leur propre signature. Ils n'ont pas été, je dirais, dans le courage, pour ne pas dire dans l'audace, de prendre une telle décision-là. Par contre, pour venir nuire aux relations internationales et créer des situations géopolitiques stupides, évidemment, ils sont doués. Et aucun d'entre eux, je peux dire, mais en l'affirmant, aucun d'entre eux n'a une véritable réflexion géopolitique sur la situation. Et ces vœux pieux n'ont pas de sens, si ce n'est de créer une situation qui va nécessairement créer des tensions. Et c'est cette tension-là impacterait d'abord l'Europe avant d'impacter l'Iran, parce que l'Iran n'a pas des intérêts particuliers à travers les gardiens de la Révolution, puisque l'Iran est déjà sous sanction en tant qu'État, en tant que pays. Qu'est-ce qu'on peut encore lui infliger comme sanction? Aujourd'hui, on a atteint le sommet, mais cela n'a pas empêché l'Iran d'évoluer, cela n'a pas empêché l'Iran de se développer, cela n'a pas empêché l'Iran d'avoir même la puissance nucléaire qu'elle a actuellement, ça n'a pas empêché d'avoir la puissance militaire. La qualité de ses scientifiques et son, je dirais, sa recherche scientifique dans beaucoup de domaines, et notamment par exemple dans la nanotechnologie, défiant ainsi toute l'Europe entière. Aujourd'hui, au lieu de prendre l'Iran comme allié ou en tout cas comme partenaire économique, scientifique, etc., on essaie de se remettre à dos, ce qui est sur le plan du raisonnement et de la réflexion une stupidité monumentale, mais sur le plan pratique, ça n'a pas de sens et ça n'a aucun impact, si ce n'est de se faire valoir par rapport à ce que j'appellerais moi les autorités américano-sionistes.
Oui. Merci pour vos explications, maître. Restez en ligne. Je pense que la connexion est rétablie avec Luc Michel. Luc Michel, est-ce que vous êtes là?
Oui, oui. Les dieux de la technique n'étaient pas avec nous aujourd'hui, monsieur. Oui.
Merci encore d'être avec nous. Monsieur Michel, votre analyse n'a pas été complète, on a été coupé. Donc, je vous écoute en ce qui concerne votre point de vue sur cette prise de position européenne.
Mais je disais surtout que l'Union dite européenne, elle est profondément corrompue. Vous savez, la vice-présidente du Parlement européen et deux députés européens, ils sont en prison depuis un mois, arrêtés par la police belge. Chez eux, on a saisi 1,5 million d'euros en liquide. 1,5 million, vous imaginez. Et ce sont ces gens qui donnent des leçons de démocratie et de moralité. C'est cela qu'il faut revenir. Les sanctions, c'est une posture. L'ancien président russe Medvedev a dit que les dirigeants de Bruxelles étaient idiots et incompétents. On sanctionne des gens, on les interdit de venir en Europe. ont saisi leur compte. Mais ces gens n'ont pas de bien dans l'Union européenne. On le fait pour les Russes, on le fait pour les Iraniens, on le fait pour des chefs d'État et des politiciens africains, évidemment. Tout cela, c'est une posture médiatique et qui vise à donner un vernis de démocratie. Dire que le Parlement européen condamne l'Iran, c'est faire croire que la démocratie occidentale est la démocratie occidentale. Tout cela n'aura aucun résultat. Maintenant, il y a une deuxième chose. Pourquoi est-ce que l'Union dite européenne, elle s'attaque à l'Iran? Parce qu'elle comptait sur l'Iran pour remplacer la Russie sur le marché européen du gaz et du pétrole. Or, les Américains disent justement que l'Iran, c'est l'épée géopolitique de la Russie dans le domaine du gaz. L'Iran a empêché la Russie de perdre le contrôle du marché du gaz en Europe. Et évidemment, les politiciens européens, qui sont des créatures américaines, ce sont des agents yankees. Moi, je les appelle des prostituées yankees. Eh bien, ce sont ces gens qui sont au pouvoir. Des gens comme ont demandé Charles Michel, Louis Michel, Ursula von der Leyen, etc. Ce sont des gens qui ont eu des problèmes dans leur pays, où ils ont déjà été des gens incompétents ou corrompus. Et maintenant, ils agissent au sommet de l'Europe. Évidemment, il n'y a pas grand-chose à attendre de ces gens-là. Vouloir accuser les Moudjahidines du peuple d'être démocrates et les gardiens de la révolution, d'être terroristes, c'est ne pas, comme le dit Maître Chabi, connaître la géopolitique du Proche-Orient, puisque les gardiens de la révolution sont une digne cause de terrorisme.
Mais Monsieur Michel, merci pour vos explications, mais à votre avis, quelles en seront les prochaines étapes de ces actions anti-iraniennes, mais aussi les ripostes iraniennes, parce que la partie iranienne, les députés iraniens ont souligné que cette décision et cette démarche européenne ne restera pas sans réponse.
Écoutez, la situation sur l'Iran, c'est la même que sur la Russie. Il y a une marche jusqu'au boutisme des dirigeants européens. Il faut écouter les discours de tous ces gens. Charles Michel, Macron, Ursula von der Leyen et compagnie. Je pense donc qu'ils vont arriver à ce qu'il y ait une condamnation des gardiens de la Révolution par la Commission européenne qui est la seule compétente. Le résultat simplement, c'est qu'aujourd'hui, l'Iran ne se laisse plus faire et on n'est plus en train de sanctionner des petits États comme la Libye, l'Irak de Saddam Hussein ou encore des États africains. On est en train de sanctionner des grandes puissances comme la Russie et l'Iran. Et ceci rend coup pour coup. Il y aura donc une réponse, évidemment, dans cette affaire. Et cette affaire, elle va être dommageable pour l'Union européenne. La crise, évidemment, va s'aggraver encore plus en Europe. C'est à cela qu'il faut constater. Mais le grand géopoliticien européen, le général autrichien Jordi von Lausen, qui aujourd'hui est décédé, au moment des guerres de Yougoslavie, a fait émis une thèse. Il avait dit que la participation des politiciens européens atlantistes aux guerres américaines en Irak, en Yougoslavie, au Proche-Orient, c'était une trahison des intérêts fondamentaux des peuples européens à l'interne. Nous vivons le deuxième épisode de cette thèse.
Merci Luc Michel. Maître Chami, vous, à votre avis, quelles seront les prochaines étapes de ces actions anti-iraniennes, mais également la réponse iranienne?
Bah écoutez, d'abord, il faut qu'il y ait une décision que j'appellerais exécutive. Pour l'instant, il n'y en a pas. Par conséquent, l'Iran se considère que c'est un acte médiatique qui n'a aucun impact. Le jour où cette motion ou cette déclaration se transforme en acte exécutif de la part des gouvernements européens ou de la part de l'Union européenne, la question se poserait autrement et je n'ai pas, si j'ose dire, les qualités nécessaires pour prendre la décision à la place du gouvernement iranien et par rapport aux institutions je n'ai pas les compétences nécessaires pour prendre la place des institutions iraniennes pour décider des mesures qui pourraient être prises. Mais je sais qu'il y a ce que j'appellerais une panoplie de décisions qui pourraient être prises et qui viseraient aussi bien des institutions européennes que des personnalités européennes et qui seraient directement visées et sanctionnées par la République islamique d'Iran, j'ai envie de dire, qui ne gardera pas ses mains dans ses poches et aura la main lourde même pour infliger ses sanctions contre ceux qui ont osé s'en prendre à sa souveraineté et à son indépendance.
Merci pour vos explications, Luc Michel. Nous avons moins de 2 minutes devant nous. Le mot de la fin est à vous.
Le plus intéressant, c'est le projet iranien de sanctionner les chefs d'état-major des armées européennes, de les poursuivre pour terrorisme. Évidemment, l'Iran montrera qu'il est intransigeant dans sa souveraineté. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir la réaction des peuples du monde. Les peuples du monde en Inde, en Chine, au G20, à l'Organisation de Convention de Shanghai, ils constatent que les Occidentaux n'ont plus de légitimité, que ce sont des fous dangereux. Évidemment, l'Iran va ajouter une pièce à cette position du reste du monde. Aujourd'hui, le bloc américain occidental, c'est 18% de la population et des terres émergées mondiales. 82% sont contre eux. Voilà simplement la position de l'Iran ici. Elle va renforcer la fin de la domination mondiale de l'Occident.
Merci à Luc Michel et André Chamy, juriste international, et Luc Michel, géopoliticien, qui était avec nous pour ce débat du jour. Nous avons évoqué l'actualité iranienne, notamment la dernière démarche du Parlement européen contre le corps des gardiens de la révolution islamique. Vous pourriez également revoir toutes les émissions, l'actualité du jour, sur notre site à l'adresse french.presstv.ir. Je vous dis à toutes et à tous, au revoir et à très bientôt.
L'Iran et son 7e art. La musique militaire en Iran. En 1913, à la demande de Gholam Reza Minbashian, dit Salar Muazzez, avec l'approbation du ministère de la Culture, la musique militaire va s'ajouter à la liste des matières enseignées à Darul Fonoun. La durée d'études était de 4 ans dans cette école. Elle y apprenait la musique militaire ainsi que la musique classique occidentale. En 1960, un dénommé Nasrullah Khan Minbashian, le fils aîné de Muazzez, qui avait étudié la musique classique au conservatoire de Petrograd, se chargea de l'enseignement du violon et du violoncelle. En 1915, l'école de musique de Darul Fonoun changea de statut et poursuivit ses travaux en tant qu'école indépendante sous la supervision du ministère de la Culture. Cette école était la première du genre en Iran. Seules les personnes ayant achevé leurs études primaires pouvaient y accéder. La durée d'études était de 6 ans, avec une première année de préparation. Pour la première fois dans l'histoire de l'enseignement de la musique classique en Iran, les professeurs eurent recours à des livres de référence enseignant différentes matières allant du solfège à l'harmonie et à l'orchestration, pour la plupart traduit du français par Salar Muazzez. Ce traducteur, musicien hors pair, enseignait lui-même dans cette école. Il enseignait notamment l'harmonie en s'appuyant sur le manuel de M. Rand, professeur de musique au Conservatoire de Paris, dont l'ouvrage avait été traduit en persan par Mohammad Hassan Gharib, surnommé Adib-e Kermani. Le persan le français, la physique, la chimie, les mathématiques et la géographie étaient les principales matières obligatoires de cette école. Les techniques poétiques et la langue française étaient les seules matières obligatoires en 5e et 6e année. Durant la première année, les étudiants se familiarisaient avec les théories musicales. En seconde, troisième et quatrième année, ils apprenaient les bases de l'harmonie et faisaient connaissance avec les différents instruments de musique. C'est en cinquième année que l'orchestration était enseignée et enfin, en sixième année, les apprentis musiciens composaient leurs premiers airs. Le manuel Lamir, traduit en persan par Mazin Dole, servait de base à l'enseignement des théories musicales. En plus de l'enseignement des instruments avant, tels que la flûte, la clarinette et la trompette, Salar Moazez enseignait également le solfège. Les cours de piano étaient donnés par Nasserol Sultan. Le succès de l'école allant grandissant, on commença peu à peu à manquer de professeurs. Elle fut donc contrainte à accepter un nombre limité d'élèves. Les conditions d'admission étaient difficiles et pour pouvoir passer l'examen final, les élèves devaient impérativement savoir jouer à un niveau professionnel d'un instrument à vent et d'un instrument à cordes. En 1922, au moment de la création de la nouvelle armée d'Iran, le Bureau public de la musique entama ses travaux sous la direction de Salar Moaziz, qui fonda la même année le lycée public de musique qui poursuivit ses activités jusqu'en 1929. Sous la direction de Salar, deux groupes d'élèves furent diplômés de cette époque. Les uns en musique militaire et les autres en musique classique. Pour percevoir leur diplôme, les apprentis musiciens militaires devaient composer et interpréter une marche militaire. L'un des morceaux choisis par Salar Moaziz que les élèves devaient savoir interpréter était une mélodie de la musique classique d'Iran appelée Mahouj. C'est durant cette même année qu'un décret interdit le double emploi des fonctionnaires. Salar Moaziz, Nasserol Sultan et les autres professeurs de l'école supérieure de musique étant en réalité officiers de l'armée, durent alors abandonner leur poste au ministère de la Culture. Suite à cela, Alinari Vaziri fut nommé directeur. On parle de cet homme comme le vrai fondateur de l'époque supérieure de musique en Iran. Il était rentré au pays après avoir passé 6 ans de sa vie en Europe. Ce maître incontesté de la musique classique avait une excellente connaissance de la musique occidentale. En 1922, le ministre de la Culture, Yahya Garagoglu, Etemadou Dole, visita l'école et fut subjugué par les mélodies composées par Vaziri. Il ordonna dès lors que les meilleurs élèves de l'école enseignent la musique dans les écoles primaires de Téhéran. Cependant, à partir de 1929, la musique militaire fut supprimée de la liste des matières enseignées dans les écoles. Quelques années plus tard, en 1933, le premier ministre Mahdi Roli Hedayat visita l'école et fut impressionné par la qualité de l'enseignement. Il décida d'y apporter une contribution en y faisant notamment construire une grande bibliothèque. De 1933 à 1934, directeur de l'école de musique de l'armée et chef d'orchestre de la préfecture de police, Ghulam Hossein Minbashian, qui avait fait de hautes études musicales, fut nommé directeur de l'école tout en conservant son ancien poste. Cette année-là, on revit entièrement l'ancien programme d'enseignement et l'on finit par supprimer la musique traditionnelle. L'année d'après, un nouveau programme scolaire fut établi par le Haut Conseil culturel. Ce programme réduisait à 3 ans la durée des études primaires et a instauré la mixité. Dès l'année scolaire 1934-1935, cette école mixte enseigna le solfège et le chant, et en 4e, 5e et 6e année, les élèves apprenaient à jouer d'un instrument de musique. Dans les lycées, les cours étaient partagés en 2 sections. Il y avait d'une part des cours obligatoires comme la littérature, les mathématiques, la physique, la géographie ou le français. Et d'autre part, tout ce qui se rapportait à la musique, avec notamment des cours d'harmonie, de chant, l'étude de la biographie des musiciens, etc. Minbashian, qui était, comme nous l'avons souligné, chef d'orchestre de la préfecture de police, intégra dans son orchestre plusieurs élèves de cette nouvelle école. Le nouvel orchestre ainsi formé devint très célèbre. Un de ses concerts s'est tenu à la faculté des lettres de l'université de Téhéran en février 1936, en hommage au grand poète russe Alexandre Pouchkine. 2 années plus tard, au début du printemps, un office de musique fut créé sous l'autorité du ministère de la Culture et Minbashian fut nommé directeur de l'École supérieure de musique. Dans la section musique militaire, ce dernier instaura des cours qui se prolongeaient sur 8 années d'études, dont 6 au lycée et 3 ans d'études approfondies. Dans ce but, il engagea 10 professeurs de musique tchèque. Ces professeurs et leurs disciples lancèrent bientôt plusieurs orchestres dirigés par Minbashian lui-même. Toutes les représentations de ces orchestres étaient diffusées en direct à la radio. Outre ces professeurs tchèques, d'autres personnes enseignaient également dans cette école.
Thank you.